Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 24 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres. Mondial 2022 au Qatar, le Maroc arroche un nul contre la Croatie. L'Allemagne est tombée de très haut face au Japon, l'Espagne balaye le Costa Rica, tandis que la Belgique s'impose laborieusement face au Canada. Accord pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Mali, 11 civils tués dans un raid djihadiste contre un camp de déplacés. Entretien sur le Sahara occidental entre le roi du Maroc, Mohamed VI, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La répression en Iran débattue au Conseil des droits de l'homme. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Les vice-champions du monde croates n'ont pas brillé pour leur entrée en concédant un nul triste et sans saveur contre le Maroc, 0-0. Les jours de l'équipe nationale allemande ont été balayés par la fougue des Japonais. L'Espagne a livré une démonstration de force collective et offensive aux dépens du Costa Rica, humilié 7-0 ce mercredi à Doha. Enfin, la Belgique a remporté une victoire laborieuse, 1-0 face au Canada, un Canada impétueux mais maladroit, prenant ainsi la tête du groupe F de ce mondial 2022. Retour sur la journée de mercredi avec vous, Eric Manirakidza.
Après la défaite sénégalaise ce lundi, le nul concédé par la Tunisie ce mardi, le Maroc a tenu en échec les vice-champions du monde, croates, et leur leader, Luka Modric, incapable de bousculer sérieusement des lions de l'Atlas, solides à défaut d'être brillants. Notre consultant sportif Amin El Amri a suivi cette rencontre pour vous à Doha, son analyse.
C'est vrai que les hommes de Walid El-Gragui se sont créés des occasions assez franches pour ouvrir la marque. Mais en face, la Croatie aussi a été un solide client, surtout en défense, même si les Marocains n'ont pas concédé énormément d'occasions face au coéquipier de Luka Modric. En réalité, ce match nul est beaucoup mieux que l'entrée en matière en 2018, avec cette défaite cruelle face à l'Iran dans le temps additionnel. Là, il a semblé qu'en fin de la deuxième mi-temps, Walid El-Gragui et ses hommes ont opté pour un résultat de parité qui laisse tout ouvert dans ce groupe F, notamment lors du prochain match face à la Belgique dimanche, puis éventuellement lors du troisième match face au Canada. C'est en tout cas un résultat qui satisfait quelques-uns de leurs supporters, mais les Lions de l'Atlas devront cravacher plus fort face à la Belgique, troisième du dernier mondial. Rappelons que le Maroc court toujours derrière une première victoire depuis 24 ans en Coupe du Monde.
La Belgique, deuxième nation au classement FIFA et troisième de la Coupe du Monde 2018, peut s'estimer heureuse de ne pas être menée au score face à une équipe du Canada inexpérimentée. Les Nord-Américains ont continué à poser problème à leurs opposants. Suivez l'analyse de Eric Ossi Choupin, coach de football.
Pour avoir suivi le match du début à la fin et pour avoir suivi un peu les performances du Canada sur ces derniers mois, depuis la qualification, sa qualification jusqu'à la Coupe du Monde, je pense que le Canada méritait de gagner ce match. Et vu les performances tant au niveau de la première mi-temps que sur la deuxième mi-temps aussi, ils ont respecté leur plan de jeu. Ils ont respecté le plan de jeu, c'est-à-dire jouer en attaque placée, pénétrer la défense belge et avoir les opportunités et les chances de marquer des buts. Et ce qu'ils ont fait du début à la fin, avec quelques changements qui sont arrivés sur la deuxième mi-temps, qui ont donné plus de pertinence et de percussion au niveau de l'attaque.
L'Allemagne s'est fait surprendre par le Japon. C'est la grosse surprise de la journée de ce mercredi. Ce mardi, c'est l'Argentine qui a été balayé par l'Arabie Saoudite. Des surprises s'enchaînent.
Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y aura des surprises. Et le Japon, sur les 3 ou 4 dernières Coupes du Monde, se sont toujours qualifiés en 16e de finale. Donc, cette surprise ne me surprend pas.
L'Espagne, qui est l'une des équipes très jeunes de la compétition, a produit des miracles ce mercredi.
Ouais, face à la Costa Rica. Je sais pas, je dirais pas que c'est des miracles. Franchement, ils ont largement mérité cette victoire parce que la Costa Rica, je pense qu'est arrivée à cette Coupe du Monde pas très bien préparée.
Prévenu par les coups de semence du Japon et de l'Arabie Saoudite, le Brésil ne doit pas tomber dans le piège ce jeudi contre la Serbie en évitant de commettre le même faux pas inaugural que l'Argentine et l'Allemagne. Eliezer Oliveira, 57 ans, leader communautaire de Rochinha, espère un 6e sacre mondial 2022 de la Seleção.
Le sacre du Brésil serait un cadeau merveilleux pour de nombreux Brésiliens. Pour le Brésil, c'est important. Ce serait un cadeau de Dieu pour la nation brésilienne de voir le Brésil être champion. Si je ne me trompe pas, ce serait le 6e. Ce serait une victoire pour nous, Brésiliens, qui faisons face à beaucoup de problèmes, de luttes et de mauvaises politiques.
Le Cameroun ne compte pas répéter les erreurs du passé, a dit son sélectionneur à la veille d'affronter la Suisse ce jeudi. Également, les Black Stars sont concentrés sur leur premier match contre le Portugal. Le Ghana peut faire l'exploit, en tout cas pour son capitaine André Ayew. Le Portugal est le favori sur le papier. Mais ce qui se passe sur le terrain n'est pas toujours ce qui se passe sur le papier. Je cite, « Nous sommes prêts à leur créer des difficultés ». Le verdict Idrissa, on le saura après le coup de sifflet final de la partie. À ce soir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Merci à Eric. Dans le reste de l'actualité, un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi à 18h dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue d'un mini-sommet hier à Luanda, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Le point avec Eddie Isango.
Le président congolais Félix Tshisekedi était réuni avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta en l'absence du président Paul Kagame. Les partis se sont également accordés pour exiger les retraits immédiats des rebelles du M23 des zones occupées, a précisé le ministre angolais Tete Antonio à l'issue de la réunion. Les délégations ont été reçues par les présidents angolais João Lourenço et médiateur de l'Union africaine. Le chef d'État burundais Évariste Ndayishimiye, également président de la communauté d'Afrique de l'Est, était présent à Luanda, tout comme l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur pour la paix en RDC. Pour sa part, le AC a annoncé des prochaines discussions de paix à Nairobi. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que conteste Kigali. Kinshasa a affirmé mardi qu'il était hors de question de discuter avec les rebelles du M23 avant leur retrait des zones qu'ils occupent dans l'est du pays. Un cessez-le-feu a déjà été conclu en juillet à Luanda, mais l'accord entre les chefs d'État des deux pays voisins a immédiatement été violé sur le terrain.
La junte malienne a prolongé le mandat des conseillers municipaux jusqu'aux prochaines élections locales, selon un texte de loi promulgué par son chef, le colonel Assimi Goïta, rendu public mercredi soir. Ce texte ne mentionne pas de date pour les prochaines élections communales, initialement prévues en 2021 et plusieurs fois repoussées. Ce nouveau report était attendu. Une élection présidentielle est prévue en février 2024 au Mali, et un référendum sur une nouvelle constitution en mars 2023. Des législatives doivent aussi se tenir entre octobre et novembre 2023 et des élections locales en juin 2023. Par ailleurs, dans le nord du Mali, 11 civils d'un camp de déplacés ont été tués lors d'un raid de djihadistes près de Gao. La région est enfoncée dans la violence depuis des mois, Yacouba Ouedraogo.
Le camp de personnes déplacées de Kadji, à quelques kilomètres de Gao, a été attaqué lundi soir par des hommes à moto. Un élu local de Tessit, d'où venaient la plupart des personnes regroupées dans ce camp, ainsi que la télévision nationale, ont fait état de 11 morts. Tous les abris ont été incendiés et tout le bétail a été emporté, a dit Mohamed Touré, représentant du HCR au Mali, qui confirme ce bilan. Un commandant des opérations de l'armée dans la région, le colonel Famouké Camara, a décrit cette attaque comme un acte de représailles des djihadistes contre des jeunes qui les avaient affrontés en début d'année à Tessit et qui ont trouvé refuge au camp de Kadji. Le 7 août de cette année, au moins 42 soldats maliens ont été tués à Tessit, le plus lourd bilan pour l'armée malienne depuis la série d'attaques dans la région des Trois Frontières, théâtre depuis le mois de mars d'une vaste offensive du groupe État islamique au Grand Sahara.
L'initiative d'Accra, un regroupement de 7 pays dont le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, a tenu un sommet mardi et mercredi dans la capitale ghanéenne. Elle va lancer une force multinationale conjointe dans les prochaines semaines. Le Burkina, durement touché par le terrorisme, a participé au sommet. Sa réaction avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
L'initiative d'Accra est un regroupement de 7 pays pour faire face au terrorisme. Il s'agit bien évidemment du Burkina, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et enfin du Nigeria en tant que pays observateur. Ces pays se sont accordés à mener des opérations conjointes, former leurs soldats et partager le renseignement. Selon le Premier ministre burkinabé, si cette initiative ne donnait pas de résultats concrets, le Burkina Faso se réservait le droit de se retirer de cette initiative parce que, dit-il, nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. L'initiative d'Accra a décidé de lancer sa force antiterroriste dans les prochaines semaines. Les pays ont besoin de 550 millions de dollars pour le fonctionnement de l'organe. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne se sont déjà manifestés. La force en création de l'initiative sera déployée à Tamale, dans le nord du Ghana. Le renseignement, lui, sera basé à Ouagadougou. Le Nigeria, même s'il ne fait pas partie de l'initiative pour le moment, veut accompagner la force en appui aérien et logistique. Le grand absent au sommet d'Accra a été le Mali. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se sont entretenus mercredi de l'épineux dossier du Sahara occidental au point mort lors d'une rare rencontre à Rabat, ont indiqué le cabinet royal et l'ONU. Le monarque chérifien a reçu M. Guterres au palais royal à Rabat en marge d'un forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies organisé dans le nord-est du Maroc. Rabat, qui contrôle près de 80% du territoire du Sahara occidental, prône un plan d'autonomie sous sa seule souveraineté. Le Polisario, lui, réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, qui avait été prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu mais jamais concrétisé. Ce cessez-le-feu a volé en éclats en novembre 2020. Le nombre quotidien de cas Covid a atteint un nouveau record en Chine, ont annoncé jeudi les autorités qui s'efforcent d'endiguer la propagation du virus en procédant à des confinements stricts, des tests de masse et à des restrictions de voyage. Lengzhou, ville du centre de la Chine hébergeant une immense usine d'iPhone, a ordonné le confinement de plusieurs quartiers centraux où sévit une flambée de Covid-19 qui a déclenché de violentes protestations et la panique. La répression sanglante des manifestations qui secouent l'Iran depuis 2 mois pourrait bientôt faire l'objet d'une enquête internationale si le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en adopte le principe jeudi. Ces 47 États membres se réunissent d'urgence à la demande de plus de 50 pays membres de l'ONU et à l'initiative de l'Allemagne et de l'Islande qui déplorent une détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran. La répression a fait en 2 mois au moins 416 morts, dont 51 enfants, selon l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège. Le dirigeant réformiste Anwar Ibrahim et principal chef de l'opposition a été nommé Premier ministre de Malaisie, a annoncé jeudi le Palais Royal, mettant fin à une longue incertitude après les initiatives de samedi qui n'avaient donné la majorité à aucun parti et des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant faisant au moins 6 morts et provoquant la déconnexion de 3 centrales nucléaires et affectant jusqu'à la Moldavie voisine. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les autorités ont décidé d'enrôler 50 000 VDP, volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée qui vont venir appuyer la lutte contre le terrorisme. L'opération d'enrôlement a pris fin la semaine dernière. Déjà, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'opération d'enrôlement des 50 000 supplétifs de l'armée a duré quelques 3 semaines. Sur des sites à Ouagadougou et à l'intérieur du pays, des milliers de personnes se sont portées volontaires pour défendre la patrie. Larba Yamego est porte-parole du mouvement révolutionnaire interafricain, une organisation de la société civile. Il s'est enrôlé comme volontaire.
Nous avons décidé de nous enrôler parce que nous n'avons qu'un seul pays. On n'a rien de plus précis que le pays. Si le pays n'existe pas, on n'existe pas. Voilà pourquoi on est motivé à répondre à l'appel des nouvelles autorités pour s'enrôler massivement, pour aller libérer le pays. Parce que nous, on espère qu'on peut gagner cette guerre et nous la gagnerons. Aucun sacrifice n'est de trop pour libérer ce pays. C'est quand on vit qu'on a peur. Donc la mort ne me fait pas peur. C'est quand je vis que j'ai peur. Une fois que je suis mort, c'est fini. Hein. Mais c'est bien de mourir pour quelque chose que de mourir pour rien.
Inoussa Ouedraogo est un autre volontaire.
On a décidé juste pour venir t'inscrire VDP. Parce que bon, on voit que nos pays n'est pas en paix, partout à gauche à droite, les uns quittent au village, rentrent en ville. Bon, alors que nous, on sait que ce qui se passe au village là-bas, nous, on sait que c'est nous tous n'avons pas rentré dans lutte. Et ce qui se passe au village, ça va rentrer en ville. Même pas peur. Les terroristes aussi, ce sont des gens comme nous.
Sur ce site d'enrôlement de la capitale, des hommes, des femmes, des jeunes et même des personnes du troisième âge viennent s'inscrire. C'est le pays qui est en danger pour ses futurs volontaires.
J'ai 56 ans, mais j'ai la tête, l'intelligence, j'ai la force aussi. Là, je n'ai pas de problème. Toi, tu es jeune, même si moi je suis vieux, c'est même l'air qu'on respire.
Moi, je n'ai pas peur. Je vais avoir peur pourquoi. Mes enfants qui meurent là, si moi je meurs, qui va m'enterrer? Et ils peuvent m'enterrer. Donc, je ne suis pas d'accord. Je vais m'engager. Je n'ai pas peur. Je compte sur Dieu et la terre. Je vais accompagner mes enfants et mes petits-enfants dans cette lutte. Je vais partir.
Le gouvernement compte recruter 15 000 de ses volontaires pour la défense de la patrie au niveau national et 35 000 au niveau communal. Un total de 50 000 VDP qui devraient aider l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Depuis la fin des enrôlements le vendredi dernier, aucune annonce officielle n'a encore été faite sur le nombre d'inscrits. Mais plus tôt, le gouvernement avait annoncé l'inscription de plus de 25 000 personnes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, l'association des élèves et étudiants accuse les autorités de non-respect des engagements pris pour justifier sa grève de 5 jours déclenchée depuis lundi. Cette grève qui a touché le niveau primaire est reconductible, selon les leaders de l'association, si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Dans un communiqué, l'association des élèves et étudiants du Mali dénonce le retard dans le paiement des allocations financières dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur, la lenteur de la décision permettant aux détenteurs de licence du système LMD de participer au concours de la fonction publique et par-dessus tout, le non-respect des engagements pris par les autorités lors des négociations antérieures. Toutes choses qui font dire à Daouda Koulibaly que cette grève est justifiée.
L'AM, ils ont quelque part raison de revendiquer parce qu'ils ont eu tant de promesses auprès des autorités, mais ça n'a jamais été réalisé. Et ça fait tellement honte, ça fait tellement... C'est choquant d'attendre tout ce qui a été dit lors de leur conférence de presse. Donc vraiment, moi j'attire beaucoup l'attention aux autorités de faire en sorte qu'ils puissent au moins penser à leur demande.
Pour l'une des rares fois, cette grève de 120 heures a touché les classes primaires et même, dans certains cas, des maternelles. Il s'agit, selon Amadou Kouyaté, pour l'AIM, de lancer un message fort à l'endroit des autorités.
C'est pas normal. Et je pense que les primaires ne sont pas considérées, en tout cas dans le programme de l'AIM. Mais nous constatons cette année, au fondamental jusqu'au primaire, et tout le monde a été touché. Je pense que c'est un message que l'AIM veut lancer aux autorités et de leur dire que encore nous avons une force de frappe.
Pour certains, cette grève de l'AIM, avec la dimension qu'elle a prise, vise à déstabiliser la transition pour des fins inavouées. Ce qui n'est pas de l'avis du journaliste Alassane Cissé.
Un combat par rapport à leurs droits, c'est quelque chose, moi je ne pense pas que c'est une manipulation, quoi. Et tout le monde sait comment la vie est chère. Donc si vraiment on essaie d'escamoter ou bien de prendre en otage leurs droits, vraiment, il est de bonne guerre qu'eux aussi revendiquent selon la manière traditionnelle. Quoi. Voilà.
L'association promet de reconduire la grève si un terrain d'entente n'est pas trouvé lors des négociations avec les autorités. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le Bénin s'avance vers l'organisation d'élections législatives inclusives et plus apaisées que celles de 2019. Plusieurs partis de l'opposition ont réussi à se faire une place dans la course, mais cela a été un parcours du combattant, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Absente des listes électorales en 2019, l'opposition à travers les démocrates, la FCBE et le MPL est bel et bien dans la course pour les législatives de janvier 2023. Si pour les autres partis, la validation du dossier a été plus ou moins facile, les démocrates ont failli ne pas être alignés sur le point de départ au grand mécontentement de leurs sympathisants.
Aujourd'hui, encore, on est en train d'empêcher. Faut dire la vérité. Ne dites pas que les démocrates ne sont pas en règle. Non. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ce n'est pas bon. Le peuple vous attend au carrefour.
Maintenant, le chef de l'État, il a souhaité d'aller aux élections avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi maintenant on dit qu'il y a affaire de quitus pour trois personnes. Le peuple a soif de voter.
De nombreux acteurs positionnés sur les listes des partis politiques se sont retrouvés face à l'inévitable question des charges fiscales. Beaucoup n'ont pas pu payer leurs impôts. Les démocrates ont d'ailleurs accusé la Direction générale des impôts d'avoir fait un redressement fiscal de manière à désavantager les partis de l'opposition. Faux. Retoque Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts.
Lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc, elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement tel ou tel parti qui reste en attente de recevoir les quitus fiscaux.
Pour les partis politiques qui ont pu fournir tous les documents demandés, ils décrivent un processus difficile, mais qui en valait la peine.
Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections.
Nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection.
Torpés pour défaut de quitus fiscal, les démocrates se sont tournés vers la Cour constitutionnelle afin que leur seconde liste, débarrassée des candidats qui devaient encore aux impôts, soit acceptée. Une requête jugée favorable par la Cour au grand soulagement du président du parti qui, après avoir reçu son récépissé, s'est dit heureux de la tenue des événements. Éric Rometty est le président du parti Les Démocrates.
Nous avons fait le chemin de croix. Nous nous y attendions. Nous savions que ça pourrait être très difficile, très laborieux pour nous parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est le récépissé des Béninois, épris de paix, épris de justice, épris d'égalité. C'est le récépissé de tout le peuple béninois.
Consciente que les blessures de 2019 n'ont toujours pas été cicatrisées, la conférence épiscopale s'est réjouie du fait que plusieurs partis politiques ont réussi à s'inscrire pour ces élections. Au total, 7 partis politiques sont en lice pour ces législatives. Le palier a franchi pour espérer siéger à l'Assemblée nationale. nationale est estimée à 10% des suffrages qui seront exprimés au soir du 8 janvier. Une mission que comptent remplir les trois partis de l'opposition qui ont réussi à se positionner. Le Cotonou, Gine Claude, en Ipouvéo, Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sport peut-il aider à promouvoir le développement économique des pays africains? Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5% alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques? Quel est l'impact du sport dans les sociétés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Togo, les cotonculteurs font face à une invasion des insectes ravageurs qui déciment les champs dans le nord du pays. Certains ont pratiquement perdu la production de cette saison. La Société nationale du coton estime les pertes à plus de 10 à 15% sur la production nationale. C'est la désolation au sein des agriculteurs, de Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Les 15 hectares emblavés cette année pour la culture du coton par Kanda Séré dans la région centrale ne lui fourniront pas grand-chose. Au mois d'août-septembre, où les plants de coton portaient des capsules, les ravageurs ont attaqué son champ.
Quand les attaques là ont commencé, on ne fait que observer les chutes de ces boutons floraux et puis le jaunissement des feuilles. À un moment donné, ça devient sec, comme si c'est un feu qu'on a passé sur la parcelle. Donc vraiment, cette campagne, on n'a pas vraiment apprécié.
Martin Drévon, le directeur de la Société nationale du coton du Togo, craint une baisse de la production pour la saison en cours de l'ordre de 15%. Il apporte des précisions.
Les régions qui ont été attaquées en premier sont la région du Nord, la région de Savane et la région de Kara. C'est un coup dur, effectivement. On est tous, toutes les sociétés cotonnières sont soumises au changement climatique. Moins de pluie, trop de pluie, sont soumis à l'augmentation du prix des intrants. Maintenant, on a effectivement cette attaque endémique de rabat de jacide qui, effectivement, est un élément supplémentaire qui affaiblit un peu la filière.
À la Fédération nationale des producteurs de coton, on fait mauvaise fortune, bon cœur. Selon le secrétaire général Eto Kofi à Peignon, le regard est désormais tourné vers les chercheurs.
Pour cette année, nous avons déjà perdu. Nous demandons donc aux chercheurs de trouver des produits efficaces qui peuvent lutter contre ces ravageurs. Car c'est depuis le mois de mars que nous avons remarqué ces insectes. Malgré tous nos efforts, ils sont toujours présents.
D'autres pays de la sous-région sont aussi atteints par le phénomène. Kodjane Ndiamouaï est le président en exercice du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPK.
Vous prenez des pays comme le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont durement touchés et comme on le dit, les pertes de production sont importantes. Vous avez des producteurs même qui n'auront rien. Il y en a même qui face à l'impuissance ont abandonné les parcelles. Il y en a aussi, vu les attaques, ils voient que la production n'est pas importante. Ils se disent, je ne me fatigue plus à aller dépenser pour récolter. Donc, ça va avoir vraiment des effets importants sur la production.
Réunis en conclave dans la capitale togolaise, les acteurs de la filière de la région subsaharienne ont proposé des stratégies pour faire face momentanément à la situation. Il s'agit entre autres de rapprocher les traitements à intervalles d'une semaine ou de 10 jours dans les pays où il était de 14 jours. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.